18 או 20 משפחות, ובמדינה יש כ-7 מיליון תושבים, אז כנראה שלא מדברים על כלל אוכלוסייה.
Et quand on parle de 17 ou 20 familles qui dominent l'économie, ça veut dire que la majorité du peuple en est exclue.
Alors justement, les Arabes en Israël, est-ce qu'ils se sont joints à ces manifestations des tentes?
העניין עם המחאה הזו היא שמבחינה קונספטואלית אין פה פטרונות, אין פה מישהו שבא ואומר בואו תצטרפו. זו מחאה שהתחילה מעשייה, וכל אדם שמוצא לנכון להצטרף מזדהה עם המסר, קם, עושה ומקבל חיבוק.
Ce qui caractérise ce mouvement précisément, c'est qu'il n'y a personne qui dit aux autres quoi faire. Cela vient d'en bas, qui veut faire, fait.
אתמול היה אוהל הידברות בנגב עם הבדואים.
Hier il y avait par exemple une tente de dialogue dans le sud du pays où se avec des bédouins.
אבל אני חושבת שאחד הדברים הכי מרגשים, אני כל הזמן אמרתי את זה גם, שאחד הדברים הכי מרגשים, לא הכי מרגש, שיצא מתוך המחאה הזו, זה שהתחילו להיות איומים באזורים מסוימים והמחאה המשיכה.
Mais ce qu'il y a de plus émouvant et de plus fort dans cette mobilisation, c'est que lorsqu'il y a eu des problèmes de sécurité dans le sud du pays, ça n'a pas empêché le mouvement de continuer.
Avec Dominique Vidal et Michel Warchavski. Quelle analyse vous faites finalement de ce mouvement? Il s'agit bel et bien d'un soulèvement social avant tout. Hein, parce que si, en moyenne, à travers les chiffres, Israël est un pays qui a des bons résultats économiques, des taux de croissance tout à fait convoités par d'autres, la réalité c'est que c'est une société très inégalitaire, avec un creusement terrible entre une élite, une oligarchie politique, militaire et économique, et puis les autres qui se débrouillent derrière comme ils peuvent, et parfois dans de grandes difficultés. Et donc ces manifs de l'été dernier étaient inspirés et répondaient à ces inégalités.
Les inégalités, le titre du Haaretz de ce matin, quotidien Haaretz de ce matin, Israël est un des trois pays du monde avec le fossé entre riches et pauvres le plus grand des pays développés, des pays industrialisés. C'est un pays d'une immense inégalité, avec en plus une arrogance de la part des riches, une arrogance de la part du pouvoir politique, et c'est une des choses qui avait motivé les jeunes, les jeunes de cet été, cet affichage du pouvoir politique avec ce qu'on appelle les tycoons, les oligarques de la finance, les dix grandes richesses israéliennes. C'est pas un capitalisme protestant qui cache sa richesse, c'est un capitalisme bling-bling.
Les chiffres, il faut les dire quand même pour que, parce que il y a un malentendu en France, hein, très particulier à la France. C'est pas vrai dans les d'autres pays européens. On ne s'intéresse à Israël et à la Palestine que sous l'angle du conflit, sous ses aspects militaires ou ses aspects diplomatiques. Les sociétés, on ne plonge pas dedans.
Sauf Daniel Mermet.
Sauf le monde diplomatique, sauf oui, Politis, mais globalement. Les chercheurs et les journalistes en France n'ont pas le regard tourné vers les deux sociétés. Et donc, on a l'impression, évidemment, si on regarde les chiffres, l'économie israélienne se porte bien, elle a un taux de croissance qu'on envierait en France. Mais quand on regarde les chiffres, près du tiers des Israéliens vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, c'est la majorité des Palestiniens, évidemment, mais c'est aussi la majorité des Juifs orientaux, c'est la majorité des Juifs ultra-orthodoxes, et c'est, encore plus choquant, peut-être, la majorité des survivants de la Shoah. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une pauvreté de masse. Et cette pauvreté, elle explique ce mouvement, parce